je vais vous parler de mon parcours, non pas par narcissisme en réalité, mais peut-être parce que vous vous y retrouverez un peu, et pour vous montrer que, en fait, la politique s'adresse à tout le monde, et pas du tout à ceux qui ont rêvé de devenir président de la République dès leur plus jeune âge. Je viens d'une famille de 5 enfants, famille catholique, et personne, si vous voulez, dans mes grands-parents n'était en politique. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de familial. En revanche, on aimait bien débattre à table de ces sujets-là. Et je me souviens, c'était vers mes 12 et 13 ans, j'étais à l'arrière de la voiture et un de ces voyages interminables. Et puis, on parcourait des paysages assez magnifiques. Et là, je me suis dit que finalement, ce passé magnifique que nous avions reçu nous rendait complètement à la fois héritiers et redevables. Et que nous avions d'autant plus de responsabilités que ce passé était plus important. Alors, je ne veux pas dire que je suis un génie, mais il se trouve que Peggy a eu un peu la même idée avant moi. Il disait, plus nous avons de passé, de mémoire, plus nous avons de responsabilités et plus aussi nous avons le devoir de conserver ce passé. De conserver non pas pour le momifier, mais pour l'enrichir et ensuite le transmettre. Et j'ai été, dès mes 13 ans, j'étais assez désolée de voir l'état dans lequel se trouvait déjà notre pays et qui n'a fait qu'empirer, hélas, depuis. Alors, j'ai fait mon stage en entreprise, sauf que je l'ai fait à l'Assemblée nationale, et j'ai commencé à faire quelques stages, d'une à deux semaines chaque été, et j'ai pris ma carte, entre mes 16 et mes 18 ans, ma carte à l'UMP à l'époque, parce que j'ai été très enthousiasmée par la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, remettre la France au travail, le mérite, tout ça, ça me parlait, et en fait j'ai rendu ma carte, six mois après la victoire de Nicolas Sarkozy, parce que j'ai été affreusement déçue par les expériences que j'avais pu avoir, parce que je trouvais que les partis politiques prenaient leurs électeurs pour des imbéciles, et leurs adhérents aussi, et aussi par le bilan du gouvernement. Je trouvais ça assez indécent, un côté bling-bling que vous connaissez tous, et qui était en plus dispensé, exposé en pleine crise du pouvoir d'achat. Je trouvais qu'il y avait un manque de sobriété dans le train de vie de certains hommes politiques qui me gênaient. Et je pense que si l'on veut rétablir la confiance entre les Français et leurs hommes politiques, il est nécessaire que l'exemple vienne d'en haut et qu'un minimum de sobriété accompagne le train de vie de nos hommes politiques. Et on se souvient sans doute de Gaulle, enfin on se souvient, on nous a rapporté, de Gaulle qui payait ses factures d'électricité à l'Élysée ou qui payait son essence en partant en voyage. Non pas par démagogie, mais parce qu'il se considérait effectivement chef de l'État, mais un chef de l'État à qui le personnel public n'appartenait pas. Le personnel et le patrimoine. Et alors, donc je me suis dit, en rendant ma carte, que je ne prendrais plus jamais ma carte dans un parti politique, encore moins l'UMP, et que je ne m'intéresserais plus jamais à la politique. Et j'ai tenu à peu près 5 ans, déjà pas mal. Jusqu'à la victoire de François Hollande en, je ne sais plus quand c'était, du coup maintenant j'ai perdu la mémoire.
2012,
merci. Ça me paraît, il y a un lustre en fait. Et là je me suis dit que c'était catastrophique, non pas par esprit partisan, mais parce que j'étais à l'époque à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors, je ne sais pas si parmi vous certains y sont passés. Non, d'accord. Il se trouve que l'école normale, le parti le plus à droite, c'est le parti socialiste. Donc autant vous dire que quand on avait des opinions un peu divergentes, eh bien on rasait les murs. Et puis surtout, il y avait à l'école normale deux aumôneries. Et oui, deux aumôneries, l'aumônerie catholique et protestante, puisqu'on fait partie de la même aumônerie souvent. Il y a les talas et les talos. Les talas, c'est ceux qui vont à la messe, et les talos, c'est ceux qui vont à l'office. Donc voilà, talas et talos sont à l'aumônerie. Et la deuxième aumônerie, c'est l'aumônerie HOMO, aumônerie, qui était et qui est toujours le groupe LGBT de l'école. Sauf qu'à l'époque, c'était le groupe LGBT, et maintenant, c'est le groupe LGBT trans, cis, enfin bref, c'est interminable. Et à l'origine, ce groupe était assez sympathique, je dois dire, très influent. C'était une des plus grosses assos de l'école qui faisait des super soirées, que je suis allée, hein, sans problème. Et j'avais d'ailleurs des amis qui en faisaient partie, mais j'ai pu observer qu'au fur et à mesure de ma scolarité, ce groupe devenait de plus en plus vindicatif, militant et surtout idéologique, et notamment contaminé par une idéologie qu'on connaît tous, qui est l'idéologie du genre, du gender, les théories de Judith Butler sur l'identité sexuelle et la construction de l'identité sexuelle. Et je me suis dit qu'avec la victoire de François Hollande, ces 40 années de mutation culturelle, parce que en fait toutes les mutations politiques se préparent en amont sur le terrain culturel, d'où la nécessité que des catholiques s'engagent sur le terrain culturel, eh bien je me suis dit que tout ça allait être converti en mesures politiques et que ça allait être dramatique, parce que ce qui faisait rage à l'école normale allait être étendu à l'échelle du pays. Et voilà, ça me catastrophait un peu. Et de fait, il y a eu le projet de loi sur le mariage pour tous, ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, et je suis effarée de voir dans certains meetings que certaines personnes ignorent encore qu'il s'agissait de mariage et de l'adoption. Et j'ai, à ce moment-là, décidé de m'engager aux veilleurs que j'ai animés pendant 6 mois à Paris. Et c'était un moment un peu schizophrène dans ma vie, puisque j'étais à l'internat de l'école normale, et donc le soir jusqu'à 2h, 3h du matin, j'allais aux veilleurs, et puis je rentrais dormir dans ma piole, et à côté de moi j'avais une amie lesbienne, en face de moi un couple homosexuel, enfin bref, donc c'était assez délirant cette époque. Et puis le couloir placardé d'affiches pour l'égalité, enfin bref, vous connaissez. Et puis la loi est passée malgré une mobilisation énorme, et là beaucoup de gens venaient à la fin des veillées et nous disaient à Axel, d'autres organisateurs des veilleurs, à moi-même, on a besoin d'avoir des personnes qui nous représentent en politique comme vous. Et je pense qu'effectivement, à travers ces mouvements sociaux, beaucoup de gens ont pris conscience de notre propre responsabilité. C'est le pape François qui disait à la maison Sainte-Marthe, les catholiques ne peuvent plus faire de la politique depuis leur balcon. Les catholiques ne peuvent pas plus dire qu'ils sont irresponsables de la situation politique qu'ils dénigrent ou qu'ils déplorent. Ils ne peuvent plus se laver les mains en disant à d'autres, moi je me retire dans mon petit salon, dans mes petits groupes, et notamment mes petits groupes catho, et je laisse ça, je laisse les clés de la maison à d'autres. Et on s'est dit que nous étions tous responsables, que nous avions les dirigeants que nous méritions en réalité, et plutôt que de continuer à subir ce que nous déplorions sans cesse, il était peut-être temps d'enfiler le maillot et d'aller sur le terrain. Et ce que je dis souvent, plutôt que de critiquer l'arbitre et d'insulter les joueurs devant l'écran de télé, ce qui s'avère très souvent assez inefficace, d'enfiler le maillot et d'aller sur le terrain, ou de prendre le taureau par les cornes, je vous laisse prendre la métaphore qui vous parle le plus. Et c'est là qu'est venue l'idée de transformer un peu ces manifestations en lame de fond politique. Pourquoi ? Parce qu'on a vu un engagement très fort finalement de la société civile, et beaucoup plus timoré des hommes politiques. Voilà. Timoré et en même temps assez clair, puisque si je prends la réaction de mon parti, donc l'UMP, 95% des députés UMP ont voté contre cette loi. Aujourd'hui ça paraît effarant, parce qu'on aurait l'impression qu'ils étaient beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont du mal ensuite à tenir sur la durée. Ils ont du mal à tenir sur la durée parce qu'ils considèrent que tout ce qui relève du sociétal est irréformable ensuite, que ça s'inscrit dans les mœurs et que ce qui était mauvais hier va devenir bon le lendemain parce que ce sera accepté. C'est-à-dire qu'on est dans une morale complètement relativiste où l'homme devient la mesure de toutes choses et on mesure le bien fondé d'une loi à son acceptabilité dans la population. Voilà. Et j'ai, à ce moment-là, donc c'était en juin, donc la loi venait de passer depuis un mois, et j'ai pris un verre avec quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, qui est François-Xavier Bellamy, qui est un ami, et on a discuté de l'opportunité de lancer une initiative politique. Et c'est là qu'est venu le projet de Sens Commun. Et l'idée, c'était, au sein de grand parti des Républicains, essayer de participer à l'effort de refondation de la droite, et essayer, si vous voulez, de faire en sorte que tous ces gens qui avaient pris conscience que nous ne pouvions plus laisser le terrain à d'autres ne retournent pas chez eux et ne reprennent pas leurs habitudes d'antan. C'est le père Imbrecht, un dominicain, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit un livre sur l'éloge de l'action politique, me semble-t-il. Et il disait que les catholiques étaient de parfaits intermittents du réveil. Et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que nous avons tendance à nous réveiller une fois qu'en réalité il est trop tard. Nous avons tendance à nous réveiller à un moment où, après des années de combats culturels, une l'idéologie culturelle est en train d'être convertie en projet politique. Et bien, nous nous réveillons à ce moment-là, mais c'est trop tard, puisque de toute façon, à l'intérieur de la machine politique, nous avons très très peu de relais. Et je dis de relais pas seulement catholiques, hein, je parle d'hommes et de femmes de bon sens, de bonne volonté, qui pourraient être amenés à avoir le bien fondé ou au contraire le caractère pernicieux de telle ou telle mesure. Et c'est là que nous avons décidé de fonder Sens Commun. Et que puis-je vous dire? Oui, il y avait aussi ce qui m'a amené à fonder Sens Commun, ça a été une citation d'un communiste, comme quoi, communiste italien qui s'appelle Gramsci. Vous en avez sans doute entendu parler aussi, puisqu'on le disait très souvent au Veilleur. Gramsci qui dit je hais les indifférents. Bon, c'est un peu fort. Mais qui dit ensuite que les pires catastrophes dans l'histoire de l'humanité sont advenues non pas à cause de la volonté diabolique de quelques individus, mais à cause de la passivité de la masse. Et je suis convaincue que la situation que nous vivons actuellement, qui est critique, et j'ai parlé des questions sociétales, mais c'est vrai sur tous les plans, c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai sur le plan de l'éducation, c'est vrai sur le plan de la politique de manière générale, et que tout cela finalement est dû à notre passivité. À notre profonde passivité, parce que nous disons sans cesse que la politique, ça ne s'adresse pas à nous et que ça s'adresse à d'autres que nous. Et ce raisonnement est faux. Voilà, est faux, est mauvais et conduit à ces catastrophes-là. Alors, pour ce qui est du sujet finalement du jour, hein, c'est-à-dire du lien entre politique et catholique, je voudrais signaler quelques vices que nous avons. Alors je reviendrai ensuite sur les armes que nous avons, et je pense que les chrétiens et les catholiques sont beaucoup plus armés que les autres pour faire de la politique, mais j'aimerais d'abord évoquer, pour commencer par ce qu'il y a de négatif et terminer par ce qu'il y a de positif ensuite, par certains travers que nous catholiques avons dès lors que nous commençons à poser un pied en politique ou à parler de politique. Le premier, c'est notre impatience. Notre intransigeance et notre impatience. Nous voulons tout avoir tout de suite. J'ai reçu un jour un texto d'un ami qui hésitait à rejoindre Sens Commun et qui avait regardé un peu notre programme et qui m'a dit « Bon, il est hors de question que j'adhère puisque dans votre programme, vous ne réclamez pas en même temps donc l'abrogation du mariage pour tous, très bien, vous le faites, très bien, mais aussi l'abrogation de l'IVG, l'abrogation du Pax, l'abrogation de la pilule et l'abrogation du divorce. » Je dis « Ah oui, bah, mon gars, si t'attends ça, effectivement, tu t'engageras jamais en politique. » Et si vous voulez, la politique, c'est pas l'art de définir, ça va vous paraître cynique hein, ce que je veux dire, mais c'est pas l'art de définir la meilleure politique possible, c'est l'art de définir très souvent la moins mauvaise, voilà, dans un premier temps. Et que si vous attendez d'être à 100% d'accord avec une personne ou un parti politique pour vous engager, eh bien vous ne vous engagerez jamais. Voilà. Quand vous faites partie d'une équipe municipale, et ça j'en parle beaucoup avec certains élus, qui soient à Sens Commun ou ailleurs, ils me disent qu'ils sont très souvent arrivés avec leur bazooka, vous voyez, en disant « Maire, tu fais ça, 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 sinon je ne vote pas pour toi. » Et que maintenant qu'ils sont de l'intérieur, ils se rendent compte que c'est plus difficile. Et que, à force d'être intransigeants, nous finissons par nous replier sur nous-mêmes et dans une politique de l'entre-soi. C'est-à-dire, je ne vais pas avec eux parce qu'ils ne sont pas entièrement parfaits, ils ne pensent pas exactement comme moi, ils ne sont pas de bons chrétiens, enfin voilà. Et du coup, nous nous replions dans nos salons ou dans des mouvements exclusivement politiques. Et finalement, je pense que c'est très mal, parce que nous renonçons à la dimension missionnaire qui doit être la nôtre. Voilà. Le jour de la Pentecôte, le Christ n'a pas... l'Esprit-Saint n'est pas descendu sur les apôtres et le Christ d'une manière générale, n'a jamais dit allez évangéliser seulement vos proches et vos familles, mais surtout ne sortez pas de chez vous. Au contraire, il leur a dit mais sortez, allez évangéliser toutes les nations. Et bien, je pense qu'en politique, et d'ailleurs, je suis très heureuse que le pape François ait un peu confirmé cela, il disait je pense que un parti catholique n'est pas la bonne solution. Je crois que ce sont ces mots exacts, n'est pas la bonne solution. Et pourquoi dit-il cela ? Parce que on finit par tomber dans une forme de communautarisme, de politique communautariste, et de dire que notre message ne s'adresse qu'aux catholiques, alors que je suis convaincue que notre message, et en tout cas à sens commun, voilà, on n'a jamais de discours ouvertement confessionnel, je suis convaincue que l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie qui s'exprime dans la doctrine sociale de l'Église, est accessible et doit être accessible à tout homme de bonne volonté. Et le problème d'un parti ouvertement catholique, c'est justement de braquer ou de fermer la porte à des personnes d'autres religions, ou qui ne sont pas en tout cas catholiques, et qui pourraient rejoindre cette vision-là. Et je trouve ça voilà, un peu dommage. Deuxième travers du catholique, alors ça c'est travers dans lequel il excelle, c'est la politique monomaniaque. C'est-à-dire, hors de la bioéthique, point de salut, je ne m'intéresse qu'à cela, donc je ne m'intéresse qu'à l'avortement, je ne m'intéresse qu'à au mariage pour tous, et tout cela finit par nous rendre inaudibles. Je ne dis pas que ça n'est pas important, c'est fondamental, et c'est d'autant plus fondamental que finalement nous sommes les seuls dans la société, ou presque, à aller un peu à contre-courant sur ces sujets-là, et il faut qu'on entende notre petit son de cloche. Mais vous ne pouvez pas être crédible en politique si vous fondez votre programme politique et votre vision politique uniquement sur des questions sociétales. Vous ne pouvez pas dire à des ouvriers qui viennent de perdre leur emploi en masse, ou à des immigrés qui arrivent « Désolé les gars, moi c'est uniquement l'IVG et le mariage pour tous qui m'intéressent. » C'est pas possible. Notre message est attendu dans absolument tous les domaines. Et notamment par exemple le domaine économique. Je pense que beaucoup parmi vous travaillent dans des secteurs économiques, dans des entreprises, eh bien, il y a une vision chrétienne aussi à développer, et je dirais même une vision de bon sens qui est attendue. Et moi, je vois bien qu'aux Républicains, la grosse menace, c'est une vision assez libérale, voire ultra-libérale, qui fait de l'homme non pas une fin en soi, mais un moyen au service de chiffres, d'indices de croissance ou du profit. Troisième travers, c'est la politique des pères fouettards. Nous autres, catholiques, chrétiens, nous sommes souvent très très bons pour faire la morale aux gens et aux hommes politiques. Et je m'adresse hein, ce reproche. Alors même que nous-mêmes ne sommes pas réellement engagés en politique, souvent, et n'avons pas une seconde idée de ce que représente l'engagement politique, de ce que ça représente de quotidien, de sacrifice au quotidien. Et nous avons surtout ces discours qui sont extrêmement mauvais, extrêmement injustes et blessants, et j'ai pu en parler avec beaucoup d'élus, du tous pourris. Voilà, nous sommes convaincus qu'à partir du moment où nous nous encartons, à partir du moment où nous nous adressons à un homme politique, nous allons un peu perdre notre âme. Voilà, et j'avais ce discours-là avant de m'engager à nouveau en politique. Et quand j'ai été nommée secrétaire nationale par Nicolas Sarkozy, donc j'ai débarqué dans une réunion à 40 avec que des sénateurs, des députés, et c'était épouvantable parce qu'ils se présentaient les uns après les autres en disant « Oui, je suis maire de telle bourgade, et puis je suis sénateur du Doubs, et un tel est député du Var, et voilà. » Et mon tour est venu, et je dis « Ah bon, bah, Madeleine de Jessé m'a pas élue du tout, étudiante, enfin bref. » Et j'étais, vous voyez, j'étais sur la défensive en me disant je vais être jetée dans le lac aux requins, la fosse aux lions, ça va être terrible. Et en fait, les trois quarts des hommes et femmes politiques que j'ai rencontrés sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent bien faire, qui se trompent parfois, mais qui se trompent par manque de formation aussi, qu'elles ont moins reçu que nous. Et plutôt que de leur crier dessus, plutôt que de les diffamer, les calomnier, il serait bon plutôt de leur proposer votre aide. Voilà, vous habitez tous dans des communes, vous avez tous un maire, et bien, si vous avez un peu de temps à consacrer, plutôt que de voir tout ce qui va mal et de voir tout ce qu'ils font de mal, essayez de vous demander si au fond ils ne sont pas mal entourés et si au fond ils n'auraient pas besoin d'être entourés par vous ou par des gens de votre entourage. Et c'est ce qu'on voulait faire à Sens Commun, c'est être effectivement le poil à gratter des Républicains, c'est sûr, mais être aussi une force de proposition. Et j'ai rencontré certains hommes politiques, et notamment Laurent Wauquiez, avec qui je m'entends bien, et qui me disait, à Sens Commun, vous m'avez en partie fait changer, et vous m'avez aidé à avoir le courage de mes convictions et à avoir plus d'audace. Et il est vrai que si nous laissons le champ à d'autres personnes, et notamment aux requins de la politique, et bien les personnes de bonne volonté qui sont engagées en politique vont être nécessairement inaudibles et invisibles et vont avoir du mal à aller jusqu'au bout de leur convictions et de leurs propositions. Et je pense que nous devons être derrière eux, pas seulement leur taper sur les doigts, mais aller les voir et quand ils se trompent, leur proposer d'abord notre aide. Ah oui, quatrième travers maintenant. Oui, vous allez me dire, il y en a beaucoup. Oui, il y en a un certain nombre, mais heureusement, il y a un certain nombre de qualités. Quatrième travers, donc, la formation. La formation, non pas que ce soit mal, au contraire, ce que l'énorme plus que nous avons, c'est que nous sommes très souvent très bien formés, et je vous félicite d'aller à ce genre de week-end et à ceux qui l'ont organisé, parce qu'il est vital que nous ayons des moments de formation, des moments où on va se ressourcer, où on va approfondir un peu le contenu de notre foi et la vocation à laquelle nous sommes appelés. Mais la formation est un marchepied vers l'action. Et on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire que beaucoup de catholiques font énormément de week-ends de formation, vont à des think tanks, des groupes de réflexion, ce qui est fondamental parce qu'on ne peut pas s'engager en politique si on n'est pas formé, c'est impossible. Mais trop souvent, on s'en limite à la formation. C'est-à-dire que, voilà, jusqu'à mes 30, 35 ans, je me forme, et souvent je parle à des jeunes qui disent « Non, mais je suis pas assez formée pour m'engager en politique, j'attends de me former plus. » Et alors, ils attendent de se former plus, et puis là, ils rencontrent une charmante jeune femme ou un charmant jeune homme, ils se marient, ils ont des enfants, et puis adieu la vie politique, « Non, tu comprends, je dois emmener Maxime au judo, non, tu comprends, je dois emmener Juliette à la danse. » Et finalement, si vous voulez, je me demande si, au fond, cette quête de formation sans fin et cultivée pour elle-même ne finit pas par éloigner complètement, alors qu'au contraire, elle devrait vous engager à vous engager, justement, et à agir au cœur de la cité. Et là encore, bah, c'est tout le sens de la Pentecôte, de sortir de chez soi. Les apôtres ont été autour du Christ, ont reçu son message, se sont formés, instruits à ses côtés, mais après ils ont tous été envoyés chacun dans une direction différente. Et dernier travers, promis j'arrête après, c'est le communautarisme, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'entre-soi, et c'est une des raisons pour lesquelles, et ça c'est une critique qu'on nous formule assez souvent, on nous dit mais pourquoi vous avez lancé Sens Commun au sein de l'UMP, pourquoi vous n'avez pas lancé un parti autonome, on s'est posé la question. Mais il nous semblait qu'à une époque où on est très facilement marginalisé, cornerisé, caricaturé, eh bien, créer un énième micro-parti, ça n'allait que nous renforcer dans cette réduction un peu communautaire, et qu'il fallait au contraire diffuser notre message le plus largement possible et dans une grande structure. Je ne dis pas que cette solution soit parfaite, hein, et j'espère que de tout mon cœur que d'autres initiatives de ce genre se lanceront éventuellement dans d'autres parties. Mais ce risque de l'entre-soi, à mon avis, est très, très sérieux, et je l'observe de plus en plus chez les catholiques, et notamment une certaine tendance à s'ériger en victime. Alors, je suis consciente, et c'est certain notamment sous le gouvernement actuel, qu'il y a une politique assez haineuse vis-à-vis des catholiques et des chrétiens, et c'est en fait hérité de la philosophie des Lumières, écraser l'infâme, et une vision selon laquelle le catholicisme serait la religion des oppresseurs, et donc il faudrait leur mettre systématiquement des bâtons dans les roues. Hérité des Lumières, hérité aussi de la politique des années 1900-1905, du combisme. Mais je pense qu'il serait erroné d'adopter un peu les comportements de minorités victimaires ou en voie de victimisation, comme le font par exemple les juifs, mais à juste titre parce qu'ils sont une minorité, ou les musulmans. Voilà, je pense qu'il faut éviter de tomber dans cet écueil-là de revendication. Et autre message que j'aurais au sujet de ce risque du communautarisme et de l'entre-soi, vous avez des enfants, vous allez en avoir, et je trouve qu'il serait dangereux que nous mettions tous, je n'ai pas encore d'enfants, mais que nous mettions tous nos enfants dans des établissements privés. Voilà. Je pense que certains enfants sont suffisamment forts, moralement parlant, et suffisamment forts pour résister aux influences. Ils sont capables de rayonner dans des établissements publics. Il serait dommage, si vous voulez, qu'il n'y ait plus aucun enfant chrétien et catholique dans les établissements publics, parce que nous misons tous sur le privé. C'était dans le registre du communautarisme. Je clôt ici le chapitre limite des catholiques pour en venir aux qualités profondes des catholiques en politique. La première force que nous avons, c'est la prière, évidemment, et la confession, le sacrement de pénitence, de réconciliation. Pourquoi ? Parce que la pathologie qui guette les hommes politiques, et j'en parlais en début de cette conférence, c'est le narcissisme. Beaucoup sont des pervers narcissiques. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais hélas, ceux qui ont le devant de la scène. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Les trois quarts des hommes et femmes politiques sont très bien, mais malheureusement, il reste un quart, et un quart qui s'accroche très souvent à l'espace médiatique. Et, c'est pas entièrement de leur faute, dans le sens où la politique, pour certains, est vécue comme un comble... comme une manière de combler un manque affectif, et surtout très souvent ces hommes-là sont entourés de flatteurs qui ont tout intérêt à les flatter pour pouvoir monter et pour pouvoir gagner certains postes. Et donc à longueur de journée, ces hommes et ces femmes politiques sont flattés, quand bien même ils ont fait parfois de piètres performances sur tel ou tel plateau, et très vite ils en viennent à être déconnectés vis-à-vis à la fois de leur propre image et de la réalité de notre quotidien. Et donc, ce que nous avons, nous, c'est nos examens de conscience et ce sacrement de réconciliation qui nous aide à faire un peu un bilan sur nous-mêmes et à connaître parfaitement nos limites. Je pense que les catholiques, plus que d'autres, parce qu'ils sont conscients de leurs limites, ont compris que la vie était un combat aussi contre ces limites-là et ne vont pas essayer, si vous voulez, de cultiver ces limites et de les engraisser au fur et à mesure de leur parcours. Le deuxième avantage, mais énorme, que nous avons, c'est celui du décentrement. Décentrement de nous-mêmes. Le Christ qui lui-même disait « Je ne suis pas venu pour rendre témoignage à moi-même, mais pour rendre témoignage à la vérité, pour rendre témoignage à mon Père qui est dans les cieux. » En politique, on n'est pas là pour se servir soi-même. On est là pour servir d'autres que soi. Cela doit permettre un certain détachement vis-à-vis de, là encore, de ce que l'on fait, de l'image qui est donnée de nous, et doit nous aider à rendre témoignage et à rendre service à d'autres que nous-mêmes. Et si vous voulez, pourquoi est-ce que beaucoup de catholiques autour de moi se sont engagés en politique après la question du mariage pour tous ? Parce qu'ils ont compris à ce moment-là. C'était pas seulement une question sociétale. Ils ont compris que la politique n'était plus au service du bien commun. Au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi ? Il y a la volonté d'honorer une promesse de campagne auprès de la communauté LGBT, si tant est qu'elle existe, et la volonté ensuite de ménager sa propre réélection. C'est-à-dire que l'homme politique n'est plus au service du bien et de l'épanouissement de tous les citoyens. Il est au service d'un intérêt particulier, l'intérêt de la communauté LGBT, au détriment du bien des enfants d'une manière générale, et au service de lui-même, puisqu'il vise à travers cette mesure sa propre réélection. Et c'est ce dévoiement de la politique qui a fait naître chez beaucoup la conscience qu'il était nécessaire de s'engager à nouveau pour remettre le bien commun au cœur de la politique. Autre qualité, la charité, bien sûr. La charité, et je suis frappée de voir que très souvent cette vertu qui devrait être au cœur de notre vie nous manque. Et manque à certains catholiques engagés en politique à travers des discours qui sont souvent très très noirs et surtout très très agressif. Et ça renvoie au danger que je vous signalais d'être des espèces de pères fouettards à faire la morale à longueur de journée aux hommes politiques. Il faut que nous soyons capables de tracer la route à suivre, de rappeler aux hommes politiques une certaine exigence à tenir, mais de le faire toujours de manière relativement charitable. Ça ne veut pas dire d'envoyer des messages tiédasses, mais de rester animé par cette charité, ce désir d'exemplarité. Et enfin, dernière qualité, c'est que nous sommes des assoiffés de sens. Et s'il y a un message que je voudrais vous adresser aujourd'hui, c'est de ne jamais vous contenter d'accomplir votre devoir d'État. N'allez jamais au boulot en vous disant « Allez, métro, boulot, dodo, je fais ma journée de travail, j'ai bien rempli mon contrat et je rentre chez moi. » Ayez toujours à cœur, mais soyez des angoissés du sens, ayez toujours à cœur de vous dire « Est-ce que là, ce que je suis en train de faire a un sens ? Est-ce que là, ce que je suis en train de faire apporte quelque chose concrètement à la société ?» Alors je sais, vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile quand on est prof, quand on est médecin, quand on travaille dans les relations humaines, de trouver un sens à ce que l'on fait. C'est beaucoup plus difficile dans certains secteurs, notamment les secteurs contrés à l'argent. Mais je suis convaincue qu'il y a une manière, à travers vos emplois respectifs, de trouver du sens. Et je vois beaucoup de jeunes qui viennent vers moi et qui me disent « Mais voilà, je travaille dans le conseil et franchement, enfin, ça n'a pas de sens ce que je fais. » du moins j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose à la société. » Et oui, je me souviens, c'était une jeune fille de mon âge qui m'avait dit ça, et je lui ai dit bah, très bien, déjà tu peux te sanctifier dans ta manière de faire de ton travail, dans la manière de réagir avec tes collègues et d'être exemplaire avec tes collègues, et ensuite si tel est le cas, eh bien tu peux toujours compenser cette absence de sens par des engagements à côté. Vous voyez, sens commun. Il ne s'agit pas d'une conférence pour vous faire adhérer à Sens Commun, je le précise. Mais je donne un exemple que je connais. À Sens Commun, il y a 100% de bénévoles, c'est-à-dire qu'on a tous des boulots à côté. Et les trois quarts viennent du secteur privé, donc de boulots où parfois dans lesquels ils ont parfois du mal à trouver justement un sens, un réel apport à la société. Eh bien, ils s'engagent à côté soit dans des associations, soit dans une action politique qui leur permet de voir concrètement ce qu'ils apportent à la société et à leurs concitoyens. Alors, et je terminerai par là, vous n'êtes évidemment pas tous appelés à être des Nicolas Sarkozy, des Nathalie Kosciusko-Morizet, et c'est tant mieux parce que je ne vous le souhaite pas du tout. Mais si vous n'êtes pas tous appelés à être élus, à être sur le devant de la scène, vous êtes tous appelés à être des citoyens actifs et pas des citoyens passifs. Beaucoup me disent « Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, ou j'ai un boulot très prenant, je suis engagée déjà dans plein d'assauts. » C'est super, c'est tant mieux, et encore une fois, il y a une réelle complémentarité de l'engagement dans des associations civiles et des engagements politiques. Mais cela ne vous dispense en rien d'encourager des élus qui se battent concrètement pour vous, de prendre votre carte dans un parti qui semble correspondre à vos aspirations. Rien que ça, c'est un engagement politique qui est très très fort. Rien ne vous empêche aussi, et c'est un devoir, de vous informer un minimum des lois qui sont votées. Il y a une loi qui a été votée récemment en catimini, dans le secret, et c'était fait exprès. C'est une loi de modernisation de la vie politique, et qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. J'espère qu'elle sera rejetée par le Sénat, mais comme personne ou peu de monde en parle en ce moment, c'est pas gagné. C'est une loi qui supprime le temps de l'égalité de temps de parole entre les candidats à la présidentielle. Et donc les candidats auront un temps de parole d'autant plus long qu'ils auront eu plus de suffrages aux dernières élections et qu'ils auront des sondages plus importants. Donc autant vous dire que c'est mettre sous les tonnoirs toute alternative, toute initiative autre que celle qui émerge des trois grands partis à l'heure actuelle. Et que, si vous voulez, c'est source de désespoir d'un changement de la vie politique. Il y a plein de lois comme ça auxquelles il est nécessaire que l'on s'intéresse tous pour être d'autant plus actifs, notamment à une époque où les réseaux sociaux nous donnent un pouvoir énorme, le pouvoir des pétitions en ligne, le pouvoir même un simple like, de retweeter une tribune, un article, eh bien ça contribue à peser considérablement sur le débat public. Voilà, donc pour vous dire que être engagé en politique, c'est pas nécessairement être candidat soi-même, mais c'est proposer son aide et c'est éventuellement adhérer ou du moins s'informer et aller voter, évidemment. Et j'insiste aussi sur un point, on a trop souvent tendance à se dire être en politique, c'est d'être candidat, c'est d'être élu. Ce qui manque énormément aujourd'hui, ce sont des conseillers politiques aussi. Voilà, et ça, je suis convaincue que c'est accessible à beaucoup parmi vous. C'est-à-dire que les hommes politiques sont souvent mal entourés. Ils font souvent mal parce qu'ils sont mal conseillés. Et nous avons un besoin cruel de personnes qui entourent et qui chaperonnent un peu les hommes politiques. Avis aux femmes aussi, vous avez, mesdemoiselles, mesdames, un boulevard devant vous, sachez-le. Voilà, moi, je ne souhaite pas aller aux législatives parce que je me marie et que mon fiancé n'est pas très chaud. Mais sachez que, enfin, honnêtement, il y a ces lois sur la parité qui dessinent réellement un boulevard devant nous et que je pense que les femmes ont beaucoup à apporter en politique dans un monde qui est souvent un combat de coq et qui est un peu de douceur. Voilà, mériterait d'être apporté dans la machine. C'est dans la lettre à Dionette qu'est écrit que les chrétiens doivent être dans la cité comme l'âme dans le corps, et c'est la raison pour laquelle il est urgent, plus urgent que jamais, de vous investir en politique, de ne pas gâcher la lumière sous le boisseau, mais de la hisser au sommet du lampadaire pour que la politique soit à nouveau source de confiance et source d'espoir, je ne dis pas d'espérance, parce que l'espérance est l'espérance du ciel, mais en tout cas d'espoir. Et je suis convaincue que dans les années à venir, cet espoir sera en grande partie l'œuvre des chrétiens en politique. Je terminerai par une citation de Camus que certains doivent connaître par cœur, parce que je termine comme ça à chaque conférence. Mais à la suite de Camus, sachez-le, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Voilà. Merci à tous.
Il y a deux solutions. C'est en gros, soit vous restez sur vos positions et ça va vous compromettre le reste, la suite. Mm-hmm. Ou bien est-ce que vous allez, entre guillemets, suivre le moins pire des candidats et...
Ça, c'est la question qui revient à chaque fois, effectivement, et je la comprends. Énormément de gens viennent vers moi en me disant. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont un peu désespérés justement, et c'est la raison pour laquelle je vous engage à vous engager, parce que j'en ai assez qu'à chaque primaire ou à chaque élection, les gens arrivent un peu désabusés en se disant bon, on a le choix entre le pire et le moins pire, ou alors on a effectivement des petits candidats qui sont très bien mais qui ne franchiront pas la barre des 0,2%. Alors, on a lancé dernièrement, mais alors là je tombe pour le coup dans la politique pure, on a lancé une initiative jeudi, c'est pour ça que j'étais un peu fatiguée hier, qui s'appelle le collectif Horizon, et qui regroupe la droite forte, Sens commun et l'Uni. Et l'idée, et c'est un appel à d'autres mouvements aussi, l'idée c'est de rassembler ceux qui se sentent un peu orphelins à l'approche de la primaire, et d'essayer aussi d'imposer nos idées au cœur du débat de la primaire, pour que ce ne soit pas seulement une hyper-personnalisation de la vie politique où finalement les gens décident en fonction de la personnalité du candidat, ce qui est une erreur, mais qu'ils soient contraints d'aborder les sujets qu'ils auraient autrement esquivés. Oui, par exemple, François Fillon qui a dit dans son livre dernièrement, je vais revenir sur le mariage pour tous, en tout cas sur l'adoption, les derniers meetings qu'il a fait, c'était à 95% de l'économie pure. Donc le risque est grand que ces candidats, effectivement, éludent un peu les sujets qui nous tiennent à cœur, et nous, l'Europe nous tient particulièrement à cœur aussi, outre le mariage pour tous. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer dans un premier temps d'imposer un peu ces idées-là, ce débat-là, et ensuite viendra le temps peut-être des consignes. Pour l'instant, on n'a pas élaboré de stratégie. Pourquoi ? Parce que si on commence à dire dès maintenant votez poisson, votez mariton, et encore mariton sur les lignes économiques très libérales, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, eh bien, on va se corneriser et on va empêcher les autres candidats de s'intéresser un peu à ce qu'on fait et de dire, bon, on a tout intérêt à prendre un peu les idées de ce collectif pour gagner un peu des voix. Mais, et je vais être, ça va vous sembler décourageant, mais je pense que 2017 n'est pas le bon rendez-vous. Je pense que 2022 le sera sans doute, mais que 2017, à moins d'un miracle, peut-être, hein, qui sait, il ne faut jamais désespérer, 2017 ne va pas tout résoudre, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je pense... Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais alors pourquoi on n'attend pas que tout ça se casse la gueule et ensuite on fait quelque chose ? Ça, j'aurais dû en parler, ça aussi c'est la rhétorique généralement des catholiques qui sont justement très purs et qui se disent autant attendre que tout se casse la figure et on reprendra les rênes ensuite. Le problème c'est que je vais vous dire quelque chose, si on ne s'engage pas maintenant, ce n'est pas vous qui reprendrez les rênes, ce sera d'autres personnes et ce sera peut-être encore pire que ça ne l'est maintenant. C'est typiquement l'erreur de la diplomatie française, enfin telle qu'elle est actuellement promue par le gouvernement, avec les printemps arabes et notamment en Syrie. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, bon, bah, c'est formidable, il y a des mouvements rebelles qui veulent remplacer un dictateur sanguinaire qui a plusieurs milliers de morts sur les mains, et donc on va les soutenir. Et puis après coup, ils se sont rendus compte que c'est pas parce qu'on s'oppose à un dictateur qu'on est soi-même nécessairement meilleur. Voilà, c'est la même chose. On va pas tout obtenir tout de suite, ça va prendre du temps, c'est certain. Je ne pense pas que 2017 apporte toutes les solutions dont on aura besoin, et que le candidat sera idéal. Mais si on ne commence pas à acquérir une solide expérience dès maintenant, eh bien on ne pourra absolument pas aller sur le devant de la scène quand il sera temps.
Juste pour terminer, je sais pas, est-ce que vous avez des liens avec Poisson Rose, hein, sur ce que vous retrouvez sur certaines questions éthiques notamment?
Oui.
Est-ce que quels sont vos rapports?
Tout le monde ne connaît pas Poisson Rose.
Alors les Poissons Roses, c'est esprit civique aussi, ce sont des... Souvent je dis c'est un peu le sens commun du Parti Socialiste. Ce sont des socialistes chrétiens en fait, voilà, qui ont rencontré le pape d'ailleurs il y a 2 semaines. Et on a des liens, oui, on a des liens, on n'en a pas assez, il faudrait qu'on se voit un peu plus. Mais effectivement, enfin, on est intervenu à des colloques communs, des conférences communes, et effectivement on a pas mal de points communs. Mais chacun essaye d'œuvrer au sein de son parti. Avec les difficultés qu'on rencontre respectivement, même si moi j'ai tendance à trouver que la solution des partis socialistes est quand même nettement plus désespérée que chez nous. Enfin, ils ont plus de boulot. Oui, mais vous voyez par exemple sens commun, donc c'est pas sens chrétien, c'est sens commun, c'est non confessionnel. Le premier reportage qu'on a eu sur sens commun, donc c'était le supplément qui m'a suivi pendant 2 semaines, et je leur avais dit j'accepte à condition que vous n'ayez pas d'angle de départ, c'est-à-dire vous vous laissez surprendre par le mouvement, vous ne collez pas des étiquettes, et enfin, voilà. Donc le reportage se passe plutôt bien, le journaliste était sympa. J'arrive sur le plateau et c'est terrible parce qu'en fait vous découvrez le reportage en direct, c'est-à-dire c'est pas en direct, c'est enregistré, mais vous êtes sur le plateau et là ils diffusent le reportage que vous n'avez pas vu avant, donc vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Et là carton de départ, étiquette de départ, Madeleine de Jessé, la nouvelle égérie de la droite catho. Donc de toute façon vous n'avez pas, enfin moi je ne nie pas que je sois catholique, tout le monde le sait, enfin vraiment c'est clair, de toute façon Madeleine Bazin-Jessé à partir de là, voilà. Mais je pense que pour autant vous ne devez pas enfin vous ne devez pas, je ne veux pas être impérative, mais il serait dommage d'avoir un discours trop ouvertement chrétien. C'est-à-dire, et là je me lâche parce que je suis dans un contexte, voilà, je suis parmi vous, je suis parmi les frères et les sœurs, et voilà. Mais dans un meeting politique, c'est dommage parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui habite en 93, qui est venue avec des amis, un musulman et un... deux musulmans et un, je sais plus quelle était sa religion, mais c'était... c'est pas bouddhiste, c'était un truc assez... je sais plus. Et en fait, pendant ce meeting, il y a eu deux intervenants de sens commun qui ont fait un discours, mais on avait l'impression qu'ils avaient une salle paroissiale en face d'eux. Alors moi, j'étais catastrophée, je fulminais sur ma chaise. Non pas du tout par hostilité ou par volonté de cacher ce qu'on est, c'est pas du tout ça, mais précisément parce que, du coup, ça peut braquer des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et de fait, à la fin de cette réunion, mon amie est venue me voir, mais furieuse, en me disant, mes amis sont partis en disant, mais c'est un truc de catho, ton truc, c'est bien leur message, mais clairement, ils ne s'intéressent pas à nous, on ne se sent pas à l'aise, voilà. Donc, quel est le sens de sens commun? C'est un peu c'est le bon sens, le sens commun. Et je pense que ça s'adresse, c'est pour ça que je disais tous les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire tous ceux qui en ont assez d'une politique idéologisée et qui sont prêts à aller à une politique de bon sens, et voilà. Non. J'annonce le Christ en tant que Madeleine de Jessé, en tant que... parce que les gens savent que je suis catholique, et quand on me pose la question à un journaliste, je vais le dire, et ils me disent est-ce que vous êtes pratiquante ou très pratiquante? C'est la question qui revient tout le temps. J'étais là, mais qu'est-ce que vous entendez par très pratiquante? Il me dit est-ce que vous allez à la messe tous les dimanches? Je dis donc c'est pratiquante en fait. Et il me dit et est-ce que vous y allez un peu plus que tous les dimanches? Je dis oui, ça m'arrive. Il me dit donc vous êtes très très pratiquante. Voilà, donc je trouve qu'il ne serait pas bien de le cacher, ça, ce serait mauvais. Mais pour autant, je refuse de dire que... d'employer des termes qui relèvent de la foi dans mes discours. Voilà. Mais je pense qu'on évangélise aussi. Vous voyez, regardez, les écoles Espérance banlieue, typiquement. Les écoles Espérance banlieue, le travail qu'ils font, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des reportages ou de visiter, mais je suis allée visiter une école à Asnières qu'une élue Sens commun a ouvert à Asnières, justement, cette année. Vous voyez, localement, on peut faire énormément de choses. Je n'en ai pas parlé de cette élue, mais Caroline Carmontran, elle a été élue mère de famille, 5 enfants, jamais fait de la politique, élue parce qu'elle a été merveilleuse. C'est les veilleurs vers son maman. Et elle a été élue... son maire, elle est allée voir son maire en lui disant t'es qu'un pourri, je voterai pas pour toi, et elle a dit j'ai besoin de personnes qui me disent que je suis un pourri et qui me rappellent un peu le cap à tenir. Et il l'a prise dans son équipe de campagne, et elle s'est dit il va m'écarter une fois la victoire remportée, et maintenant elle est maire adjointe à la petite enfance, donc on voit. Et elle a mis en place une préparation au mariage civil qui fait énormément de bien, et des séances de conseillers conjugaux qui œuvrent un peu à la stabilité des couples et des familles. Elle a mis aussi en place j'oublie un des trucs qu'elle a fait, mais elle a en tout cas contribué à mettre en place une école Espérance banlieue. Donc vous voyez, localement, il suffit d'un engagement local pour faire énormément de bien à des couples et à des enfants. Et donc cette école Espérance banlieue n'est pas confessionnelle, et il ne voulait pas qu'elle le soit. Pourquoi? Parce qu'elle accueille en son sein des enfants qui ne sont pas chrétiens et qui ne sont pas catholiques, mais vous allez là-bas, j'ai l'impression d'être au scout, quoi. C'est, si vous voulez, à un moment, le directeur disait la vérité vous rendra libre. Bon, ben voilà, c'est très clair. Mais n'empêche que si ça avait été ouvertement chrétien, je pense que beaucoup de parents n'auraient pas mis leurs enfants là. Il faut des deux. Enfin. Oui. Mais on se cache pas, vous voyez. Enfin, on se cache pas.
Le fait que les catholiques sont au sein de sens commun, j'ai l'impression
si, ah, si, si, si. Ben, vous savez, en République, on m'appelle Jeanne d'Arc. Et on nous appelle. Enfin, si, ils savent très bien qu'il y a beaucoup de catholiques parmi nous. Enfin, vraiment, ils le savent. Et à tel point que, voilà, quand le supplément est arrivé, j'aurais dû me méfier parce que c'était évident qu'ils avaient un angle. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre une séquence de vous à la messe ?
Oula,
enfin, je vois pas le rapport. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. Je dis pas, je ne déconnecte pas du tout ma vie de foi et ma vie, mon engagement politique. Au contraire, c'est ce qui m'aide et c'est ce qui nous aide à tenir le cap. Et surtout, la grande force qu'on a, c'est la doctrine sociale de l'Église qui nous donne une colonne vertébrale. Et n'hésitez pas à regarder ce texte quand il y a une question qui n'est pas claire. Et notamment, voilà, en ce moment, je trouve que c'est très difficile d'avoir un avis clair sur la question des migrants. Je trouve ça hyper dur. Et en plus, les déclarations du pape nous aident à avoir cette exigence un peu humaniste et humanitaire, enfin, chrétienne. Et en même temps, il y a des impératifs politiques, de réalisme politique derrière qui sont complexes aussi. Donc voilà, je pense que tout ça nous aide à être de bons politiques, mais pour autant, voilà, je ne souhaite pas dans mes discours transformer mes discours en sermons ou m'adresser trop ouvertement aux catholiques.
Vous avez oui. L'impression un peu de perdre, c'est pas compliqué d'avoir des gens justement qui sont loin de la foi ou qui n'ont pas forcément l'idéologie et d'être obligé de se marier entre guillemets avec eux pour pouvoir avancer. Vous savez, vous pervertissez pas un peu.
Là, vous voyez, le collectif qu'on a fondé, donc c'est avec Guillaume Pelletier, lui il est catholique, et Olivier Vial de l'UNI, qui est athée. Et on a, alors ils ne sont pas à sens commun, hein, le mouvement ne fusionne pas, mais n'empêche qu'on a les mêmes valeurs, en fait. On a les mêmes valeurs. Et pareil, notre responsable dans le 93, qui s'appelle Hayat Hamidi, est de confession musulmane. Et en fait, dans ces quartiers-là, la thématique du... Enfin, je vous racontais rapidement son histoire, elle vient du Blanc-Ménil dans le 93. Et Blanc-Ménil, pendant 83 ans, a été sous régime soviétique. Enfin, a été dirigé par des communistes. Et la droite l'a emporté aux dernières municipales, en grande partie grâce au travail d'Ayette et de ses camarades. Enfin, camarades, pardon. De ses amis et colistiers, pardon, qui ont axé en grande partie leur campagne sur la question du mariage pour tous et sur la question du gender. Parce qu'au Blanc-Ménil, il y a une école pilote sur les théories du genre. Alors autant vous dire qu'auprès des familles musulmanes et des familles issues de l'immigration qui sont très attachées aux valeurs familiales, ça passait pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, je pense qu'on peut toucher un public musulman avec la réserve qu'il y a vis-à-vis aussi du Coran et des messages du Coran, quoi. Voilà.
Donc, en fait, j'ai des enfants qui sont scolarisés dans le public, donc et ça se passe très bien. Sinon, par rapport aux personnalités des personnes politiques, vous parliez des pervers narcissiques.
Oui.
Et en fait, j'ai constaté que des pervers narcissiques catholiques, ça existe aussi.
Ah bah. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord et je pense, enfin je souhaite de tout mon cœur qu'on aille au-devant de recompositions politiques très importantes parce que une des sources, et c'est François-Xavier Bellamy qui le disait dernièrement dans le Figaro, et là, enfin, je partage tout à fait ce qu'il dit, il disait qu'au fond le discrédit des partis politiques et des politiques en règle générale venait du fait que les clivages qui définissent ces partis-là ne correspondent plus aux clivages qui existent dans la société. Et du coup, je pense qu'après 2017, de toute façon, beaucoup de partis vont être amenés à éclater et à se reconfigurer. Et là, des choses très intéressantes vont commencer, je pense.
Il y a des analystes politiques qui disent que 2017 sera l'année de l'élection d'un virus pas connu. Justement, parce qu'avec tous ces clivages politiques, ça commence à soulever les Français. Mmh. Et voilà, quelqu'un, je crois que aujourd'hui, il y a aussi une volonté d'avoir une politique nouvelle, et avoir des gens qui fassent plus de carrière aussi. Par exemple, voilà pourquoi pas une sixième République avec seulement un mandat possible au niveau de l'élection présidentielle pour éviter que ce soit des personnes qui ne pensent qu'à leur réélection. Voilà, bon, il y a plein de choses. Je pense que oui, c'est la 2017 peut être une année un peu charnée, en tout cas, c'était pas la 2017-2022. Mais...
Ouais, moi j'y crois pas trop. Déjà, cette loi de modernisation de la vie politique va empêcher ce genre d'initiative, si elle passe. Parce que si on n'entend pas sur les ondes les nouveaux candidats, ça va être compliqué. Et surtout, je pense qu'il y a une sorte d'immobilisme des partis et de la structure en partie. En fait, je ne crois pas à la disparition des partis. Les partis sont là pour refléter, et malheureusement ils ne le font plus aujourd'hui, mais ils sont là pour refléter les divergences d'opinion qui existent entre nous, qui existent au sein de la société française. Et donc ils sont indispensables pour le jeu démocratique, même si on peut le regretter. À mon avis, il n'y a pas de démocratie sans grand parti. Je ne pense pas que ce soit pour 2017, je pense que ce sera pour 2023. Et qu'il y aura, en effet un candidat assez inconnu. Et je sais aussi que l'armée et certains généraux sont de plus en plus mécontents et un peu sur les nerfs. Donc il faudra regarder. J'annonce pas un putsch. Mais voilà, dans les temps mouvementés que nous sommes en train de vivre, je me demande si on n'aurait pas intérêt à regarder aussi de ce côté-là. Oui.
Merci pour votre témoignage. Alors, au risque de vous choquer, mais je reconnais que moi j'ai un gros manque de culture au niveau de la politique. Je me suis reconnue un peu dans vos plus pourris. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez conseiller à des néophytes de la politique pour prendre les armes, mais voilà, pour se former? Ou est-ce qu'il faut de quel côté il faut regarder au niveau des médias? Comme ça, c'est bien, mais finalement, de la politique à travers vous. Demain, moi, si j'ai envie de m'engager, quel serait l'itinéraire parfait, quoi.
Sens commun. Non, en tout cas, pour l'inculture politique, c'était mon cas il y a encore 2 ans et demi. Voilà. Il y a 2 ans et demi, j'aurais été incapable de vous donner, par exemple, le nom de 3 ministres dans le gouvernement. Vous voyez, enfin, c'était assez épouvantable. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme lecture, on a la chance aujourd'hui d'assister à une sorte de révolution culturelle, c'est-à-dire que ce renversement idéologique qui ne se produit pas, hélas, en politique, est en train de se produire sur le terrain culturel. Il y a des grands penseurs qui sont passionnants, Finkielkraut, Polony, alors même qu'ils ne viennent pas d'horizons politiques identiques. François-Xavier Bellamy est très bien aussi. Les médias à lire, c'est les tribunes du Figaro Vox sont généralement de grande qualité. Alors pas toutes, mais souvent elles le sont. Si j'avais des conseils à vous donner, ce serait cela. Quand il y a aussi des interviews croisées, par exemple Le Point récemment a fait une interview croisée entre Alain Finkielkraut et Alain Juppé, c'est très intéressant. C'est très formateur et très intéressant. Luc Ferry aussi. Il y a l'Institut de formation politique, oui, tout à fait. L'Institut de formation politique qui propose des séances de formation sur un week-end, avec, je crois, 3 cycles, si je ne m'abuse. Ils sont dans le 16e arrondissement à Paris. Et c'est une formation qui est très intéressante. Et que je recommande bien évidemment. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller sinon? C'est à peu près ce que je vois comme. Et puis la politique, c'est concrètement voir au niveau local, dans vos communes, si vous pouvez filer un coup de main. Il y a toujours des choses à faire. Et puis au sein des mouvements politiques, quel que soit votre choix. De leur proposer votre aide et ça, on y acquiert une bonne expérience politique. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous? Non, il n'y a que des jeunes pros, il n'y a pas d'étudiants. Bon. Parce que j'allais dire, il ne faut jamais sacrifier ses études à la politique. Mais bon, a priori, vous ne l'avez pas fait.
La question de la formation,
oui.
Je veux dire, a priori, je trouve sur le fond, on est assez bien quand même,
ouais.
Sur le visé. C'est vraiment sur la forme des rouages politiques, comprendre même peut-être l'histoire de chaque parti, savoir quelles sont leurs grandes batailles et tout. Est-ce que là-dessus, il y aurait des choses qu'il faudrait qu'on sache? Un peu les incontournables à savoir pour être crédible en politique. Parce que je pense qu'on a des bonnes idées, mais que parfois, on peut dire des aberrations parce qu'on ne sait pas telle ou telle chose.
Mmh. Après, oui, bah, il faudrait lire, mais ça c'est plus long, c'est l'histoire de la droite en France ou l'histoire de la gauche en France, de Vinocq et de Raymond. Mais ça, c'est si vraiment vous êtes motivé, bon, ça se lit bien, mais moi j'ai eu la chance de les lire en prépa. Mais bon, pour connaître un peu les rouages des partis, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, sur internet, il y a tout ce qu'il faut. Et puis ça vient aussi avec l'expérience. Beaucoup de gens rechignent à s'engager en disant j'y connais rien, mais c'est, voilà, c'est en y allant qu'on apprend à connaître comment ça fonctionne.
C'est un monde particulier.
Oui, c'est un monde particulier, comme ça c'est sûr.
Et religieux aussi.
Comment déjouer, ça va un peu avec la question de tout à l'heure, comment déjouer la manipulation médiatique? Parce qu'il y a une grande manipulation, ouais, médiatique quand même. Et on s'aperçoit, bon, dans les débats de politique que je peux avoir avec mes amis, c'est qu'ils sont complètement manipulés, ouais, par TF1, BFM. Mmh. Et qu'en fait, la réalité, ils sont à côté de leur compte. Mmh. Ils sont, enfin, complètement manipulés. Comment vous faites?
Et je vais vous raconter là encore une anecdote. Le supplément toujours de Canal+, pour parler de la manipulation, il se trouve qu'à un moment, le journaliste me demande si je peux définir sens commun. Il me dit pourquoi ça s'appelle sens commun. Et en fait, je ne réponds pas et on me voit comme ça devant la caméra. Et en fait, je fais ça parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui définissait sens commun. On était en réunion et il y a une collègue qui a dit sens commun c'est ça, donc j'étais comme ça en attendant qu'elle ait fini, sauf qu'ils ont coupé le son et on voit que moi comme ça, et du coup le commentaire du gars c'était on voit encore qu'elle ne sait pas trop pourquoi ils sont voilà, il y a eu ça. Et puis surtout donc sur le plateau du supplément, donc je découvre le reportage, et reportage très énervant parce qu'ils avaient mis un micro caché à un moment, enfin bref. Et du coup, vous découvrez ça et vous devez rester à sourire, mais attendre parce qu'il y a le petit rond, vous voyez, en bas à l'écran, donc il faut que vous restiez comme ça. Alors, vous avez envie de tuer le journaliste qui est à côté de vous. Et j'étais invitée en même temps que Bernard Cazeneuve, donc notre ministre de l'Intérieur, qui est très sympathique d'ailleurs, très sympathique. Et puis, on débattait à un moment de la laïcité. Et donc, Maïtena me dit, est-ce que vous pouvez donner la définition de la laïcité? Donc, je donne ma définition. Et puis, Bernard Cazeneuve donne la sienne. En fait, c'était la même. Donc, les journalistes sont super embêtés quand leurs invités sont d'accord. C'est catastrophique. Et du coup, elle a commencé à dire, mais attendez, comment ça se fait que vous soyez d'accord? Et je commence à dire, théoriquement c'est ça, mais dans la pratique on voit que c'est pas bien respecté. Et puis je donne l'exemple, puisque c'était le contexte à l'époque, de la fémène qui est des fémènes qui sont relaxées et des gardiens de Notre-Dame qui sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros. Et je dis ça, et puis je l'ai dit, à la fois émue et emportée, en me disant c'est notre patrimoine qu'on attaque et ça n'aide pas du tout à apaiser. Silence de mort sur le plateau, c'est-à-dire ils étaient tous. Ils n'avaient rien à dire en fait. Et Bernard Cazeneuve a dit oui, je vous l'accorde, là il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et donc je suis sortie de là et l'attaché de presse de Sens Commun qui m'attendait m'a dit mais t'as été génial, c'est super, c'est hyper fort comme séquence. Et donc dimanche soir, je regarde jamais les émissions dans lesquelles j'étais, je trouve ça épouvantable, enfin, c'est une humiliation à chaque fois, horrible. Et donc mes parents regardent et mon fiancé, et là ils me disent mais tu parles pas des fémènes? Je dis comment ça? Et je regarde à nouveau et en fait ils ont supprimé ce passage. Donc voilà. Donc en fait, quand il y a un montage à chaque fois, et puis il y a eu un autre débat avec Cazeneuve où à la fin j'avais le dernier mot, et en fait ils ont coupé de manière à ce que ce soit Cazeneuve qui ait le dernier mot. Donc effectivement, il y a une certaine manipulation. Comment y résister? C'est de... Moi je pense que je n'accepterai plus les émissions dans lesquelles il y a un montage. Le direct est très bon pour faire passer les messages qu'on a envie de faire passer.
Mais la question est pour vous et la question est pour les autres. C'est-à-dire comment,
pour les autres,
qu'est-ce que vous pouvez conseiller?
Figaro
pour...
Vox.
Pardon?
Figaro Vox, lisez des tribunes un peu plus libres. Et ça vous permet d'avoir des informations à la fois plus fiables et...
Figaro Vox.
Ouais, Figaro Vox. Enfin, en fait, c'est les tribunes en ligne du Figaro. Et l'avantage, c'est que vous entendez un son de cloche un peu différent, quoi.
En médias alternatifs, Liberté politique.
Ah bah, vous en connaissez plus que moi, c'est bien.
Liberté politique.
Je connais pas bien Liberté politique. Je connais pas bien du tout.
Aletheia,
c'est assez général. Non, je sais pas. Moi, je lis. Je lis beaucoup Figaro Vox, j'avoue. Et puis surtout, si j'ai un conseil à vous donner, ne lisez pas les livres des hommes politiques. c'est les trois quarts du temps, c'est creux, ça n'apporte rien, ça vous fait perdre du temps plus qu'autre chose. Donc lisez plus des livres de penseurs, ceux que j'ai cités. Mais franchement, vous embêtez pas à lire les livres des hommes politiques. Voilà. Sauf si c'est de bonne qualité littéraire. Hein, c'est pas... Malheureusement, il n'y a plus vraiment de Gaulle à l'heure actuelle.
Un grand merci, Madeleine.